Laudetur Jesus Christus.
L'état de santé du pape François continue de s'améliorer hier soir et c'est une première depuis son entrée à l'hôpital. Une photo a été partagée devant l'autel de la chapelle du Gemelli. La fragilité est un temps d'épreuve, reconnaissait-il hier dans le texte écrit pour l'Angélus. Dans ce journal également, le mouvement de contestation étudiant en Serbie qui a organisé le rassemblement le plus grand de l'histoire du pays. Les frappes américaines contre les Houthis en mer Rouge et l'horreur au Mexique après la découverte de camps d'extermination utilisés par des cartels. Et enfin, dans notre dossier, direction la Chine. Dans le désordre mondial ambiant, quelle peut être la place de l'Empire du Milieu? Nous en parlerons avec Jean-François Di Meglio, le président d'Asia Centre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Le pape poursuit donc sa convalescence à l'hôpital Gemelli de Rome. Le souverain pontife continue ses thérapies prescrites, parmi lesquelles celles respiratoires et celles motrices, a précisé hier soir la salle de presse du Saint-Siège, la salle de presse vaticane qui, pour la première fois, Olivier Bonnel a diffusé une photographie de François.
Oui, Marine, on voit le pape assis en fauteuil roulant devant l'autel de la chapelle adjacente à sa chambre d'hôpital. Le pape qui est en aube et chasuble, il a célébré la messe hier, a précisé la salle de presse du Saint-Siège. C'est donc la première image que l'on voit de François depuis son hospitalisation le 14 février, signe d'une amélioration de ses conditions. La situation clinique reste stable et le Saint-Père a passé la journée d'hier en se consacrant à la prière, au repos et à un peu de travail, a-t-on précisé. Hier, dans le texte transmis de sa catéchèse pour l'Angélus, François reconnaissait traverser un temps d'épreuves, mais malgré la fragilité ou la maladie, rien ne nous empêche d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance, a-t-il écrit.
Une image qui montre donc l'amélioration progressive du pape, un pape qui est au travail, Olivier.
Oui, en témoigne ce document publié samedi, une lettre du cardinal grec, le secrétaire général du synode, qui institue un nouveau chemin pour accompagner la mise en œuvre du synode qui s'est achevé au mois d'octobre dernier. Cette lettre a été approuvée par le pape mardi dernier, 11 mars. Le Saint-Père en a demandé la diffusion aux églises locales et aux regroupements d'églises, précise le cardinal grec, preuve de la volonté de François de continuer à insuffler cet esprit du synode dans l'Église. Le pape garde une place centrale dans ce processus qui mènera à une assemblée ecclésiale à Rome au mois d'octobre 2028. Grâce à ce parcours, le Saint-Père pourra écouter et confirmer les orientations considérées comme valables pour toute l'Église, peut-on lire dans cette lettre.
Merci Olivier Bonnel et toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.vaticannews.va. L'Union européenne se penche sur la reconstruction de la Syrie. C'est la 9e édition de la conférence des donateurs aujourd'hui à Bruxelles, mais pour la première fois avec des représentants du pouvoir à Damas, en la présence du ministre syrien des Affaires étrangères, Azad al-Shebani. En décembre dernier, une coalition de groupes islamistes mettait fin à plus de 40 ans de dynastie Assad. Mais les exactions, il y a une dizaine de jours, dans lesquelles ont été tuées plus de 1400 personnes, en majorité des Alaouites, communautés de la famille Assad, ont douché cependant l'enthousiasme revenu en Syrie. Pour son premier déplacement à l'étranger, le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney choisit l'Europe, Paris et Londres en ce début de semaine pour renforcer, dit-il, l'alliance transatlantique dans un contexte de rupture avec les États-Unis. Direction maintenant la Serbie. Après avoir organisé à Belgrade le plus grand rassemblement de l'histoire du pays ce week-end, le mouvement étudiant doit décider de la suite de son action. Et il en est de même pour le président Aleksandar Vučić, cible désignée des protestataires, accusé d'avoir créé un régime inefficace et corrompu. Alors, quelles sont les options à Belgrade, Laurent Rouy?
Il aura fallu que le mouvement contre la corruption rassemble 300 000 personnes pour gagner, en apparence, le respect du président serbe. Vučić a cessé d'accuser les étudiants d'être manipulés par l'étranger. Mais est-il sincère? Il veut, pour sortir de la crise, organiser des élections. Or, la fraude électorale est une constante de son régime. Les manifestants y voient un piège. Un temps évoqué, la proposition d'organiser une transition pour préparer des élections libres a été rejetée par Vučić, qui reste décisionnaire malgré tout, de par la Constitution. Les étudiants, eux, remportent une victoire éclatante, mais ils ont choqué par leur manque d'organisation. Alors que des incidents pourtant annoncés éclataient pendant la manifestation, les étudiants ont écourté le rassemblement avant de disparaître. Pourtant, un événement majeur a eu lieu au même moment. La police a refusé d'intervenir contre la population. Vučić avait déjà perdu le contrôle de la télévision publique. Il perd maintenant le contrôle de son appareil répressif. L'enjeu sera pour les contestataires de saisir cette opportunité. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
Israël et le Hamas devraient reprendre aujourd'hui à Doha au Qatar des négociations indirectes pour définir les modalités de la suite du fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Samedi, des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne ont fait 9 morts, dont 4 journalistes. Israël qui a coupé le courant et donc l'accès à l'eau potable dans la bande de Gaza. Les rebelles houthistes revendiquent 2 attaques contre un porte-avions américain en mer Rouge. Les rebelles qui ont dit effectuer cette action en réponse aux frappes menées par les États-Unis au Yémen. C'était samedi, 53 personnes ont été tuées dans les frappes américaines. Avec ces affrontements, Donald Trump entend envoyer un message fort, dit-il. Il veut défendre les intérêts américains, notamment face à l'Iran, le grand soutien du mouvement rebelle Houthi. À Atlanta, les explications d'Edouard Maille.
Donald Trump a promis samedi l'enfer aux rebelles houthistes, les qualifiant de terroristes. « Nous utiliserons une force létale écrasante jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif », a écrit le président sur son réseau social Truth. Les rebelles houthistes mènent depuis plus d'un an des attaques en mer contre des navires qu'ils jugent proches de Israël et ont effectué des frappes contre ce même pays en soutien des Palestiniens et du Hamas depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Mais Donald Trump a aussi menacé l'Iran, son ennemi juré, et proche des rebelles houthistes, demandant d'arrêter immédiatement de soutenir les rebelles au Yémen et de ne pas menacer le peuple américain, et que, le cas échéant, Washington pourrait tenir responsable l'Iran. Téhéran, pour sa part, a condamné fermement les frappes américaines menées au Yémen et a dit que le pays ripostera en cas d'attaque. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Au Mexique, plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end après que des collectifs de chercheurs de disparus aient découvert des camps d'extermination, des camps utilisés par les cartels. À Mexico, Diego Calmar.
Des fosses et des crématoriums dans un ranch qui servait de camp d'extermination pour un cartel mexicain. Ce camp a été découvert près de Guadalajara, deuxième ville du pays, au centre du Mexique. Ce sont les collectifs de chercheurs de disparus qui ont donné l'alerte. Une découverte macabre qui braque les projecteurs sur cette crise humanitaire que vit le Mexique. 120 000 personnes sont portées disparues, la majorité enlevées par le crime organisé. Dans ce cas, il s'agissait d'un camp d'entraînement du cartel Jalisco Nouvelle Génération, le plus sanguinaire du pays. Il aurait servi de lieu de rite d'initiation où les personnes séquestrées sont recrutées, puis finalement tué après avoir été utilisé dans l'économie du crime organisé. Il apparaît que le parquet et les autorités locales de l'État du Jalisco étaient au courant, mais n'ont pas enquêté davantage, laissant la charge aux mères de disparus. Ce samedi et ce dimanche, des milliers de manifestants se sont réunis un peu partout dans le pays, plaçant des paires de chaussures sur les places centrales de ces villes. Une référence à la photo des centaines de chaussures et de baskets retrouvées dans le ranch. L'État est quasi démissionnaire dans cette crise des disparus dans laquelle est plongé le pays. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Et dans un communiqué après la découverte de ces camps de l'horreur au Mexique, l'Église mexicaine parlait de l'une des expressions les plus cruelles du mal et de la misère humaine dont nous ayons été témoins dans notre pays. Une délégation de la République démocratique du Congo demain en Angola pour des pourparlers de paix sur le conflit dans l'est du pays contre les milices du M23, mais pas de négociation directe toutefois pour l'instant avec ce groupe armé soutenu par le Rwanda, selon les Nations Unies. La semaine dernière, l'Angola, médiateur dans cette guerre, annonçait pourtant des discussions directes, refusées jusqu'ici par la présidence congolaise qui qualifie le M23 de groupe terroriste. Il devrait être le plus grand d'Afrique. La Banque africaine de développement et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines annoncent la construction d'un aéroport près d'Addis Abeba. Un projet pharaonique au coût de 8 milliards de dollars pour une capacité de 60 millions de passagers par an, et cela d'ici 2040. « Ce sont des résultats économiques en demi-teinte que la Chine partage ce matin. Le chômage notamment est à son niveau le plus haut depuis 2 ans. La semaine dernière, Pékin dévoilait pourtant l'objectif de 5% de croissance. Mais il faut dire que depuis la pandémie de Covid-19, la deuxième économie mondiale souffre d'une crise du secteur immobilier, d'une consommation atone et d'un taux de chômage élevé chez les jeunes. Alliée désormais à une rivalité politico-commerciale croissante avec les États-Unis. Dans une économie ultra-mondialisée, les mesures américaines pourraient porter un nouveau coup à la croissance chinoise. Mais au niveau géopolitique, en revanche, la Chine pourrait profiter du vide que sont en train de laisser les États-Unis en se désengageant des organisations internationales. Alors quel regard Pékin porte-t-il sur les actions de Washington depuis le retour de Donald Trump au pouvoir? Selon Jean-François Di Meglio, le président d'Asia Centre, la Chine adopte finalement une position extrêmement ambivalente vis-à-vis de la première puissance mondiale. On l'écoute.
Il y a un niveau de partenariat indéniable. Donc de toute façon, les États-Unis, même s'il y a des conflits commerciaux, même s'il peut y avoir des oppositions géopolitiques, c'est indéniablement un interlocuteur. Et puis il y a un deuxième volet, je dirais, qui est un volet de rivalité, mais une rivalité sur fond d'interrogation. Parce que il arrive que la Chine soit difficilement lisible, mais il arrive de plus en plus maintenant que les États-Unis soient illisibles ou imprévisibles. Le premier facteur d'imprévisibilité pour la Chine, c'est la démocratie. Pour un régime chinois qui n'est pas démocratique, un régime démocratique est beaucoup plus difficile à cerner, malgré tout.
On voit les États-Unis se retirer de la coopération mondiale, du multilatéralisme. Est-ce que Pékin entend profiter de ce vide ?
Le régime chinois a toujours joué sur 2 tableaux parallèles. Dans un scénario où la gouvernance post-1945 tenait le coup, la Chine a toujours souhaité jouer le rôle d'un acteur responsable, engagé et en même temps apprenant. Et à ce titre, la Chine a placé des pions, si j'ose dire, justement dans l'OMC, dans l'OMS, à la fois pour apprendre, pour réclamer le rôle qui lui revenait en tant que deuxième puissance mondiale dans les institutions multilatérales que le système onusien avait mis en place. Mais il y a toujours eu aussi, et de plus en plus depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping, un scénario dans lequel cette gouvernance mondiale, donc tout le monde dit qu'elle se craquelle un peu partout. Dans ce scénario-là, la Chine a un scénario alternatif, et c'est toutes les institutions de gouvernance qu'elle a progressivement promues. On peut penser au Shanghai Cooperation Organization, à la route de la soie, on va dire, au BRICS. Et donc, dans ces scénarios-là, on se dit, si le monde ancien s'effondre, au moins, il y a de nouveaux paramètres qui peuvent exister. La question, c'est, est-ce que ces nouveaux paramètres sont aussi francs du collier, si j'ose dire, que la Chine veut bien dire, ou est-ce que c'est comme le système précédent, un système qui a un dominant et des dominés?
Nous sommes dans une période où les cartes sont rebattues aussi en matière de relations économiques. On connaît les difficultés actuelles de l'économie chinoise. Quel comportement Pékin adopte-t-il?
Alors la question, en fait, c'est la tendance à la déglobalisation ou l'absence de tendance à la déglobalisation. Et ce qui est lié à ça, c'est le dérisking. Le dérisking a commencé en Chine avant qu'il ne commence chez nous. La Chine a clairement surfé sur l'intégration du monde depuis son entrée dans l'OMC en 2001. Mais une fois qu'elle en a tiré tous les bénéfices, elle s'est aussi rendue compte, je dirais, des risques qu'il pouvait y avoir. Le Covid est un extraordinaire accélérateur de dérisking. Et à partir de là, il y a un discours chinois qui dit « oui, oui, on est pour la globalisation, on n'a pas du tout renié nos engagements ». Mais il y a une réalité, l'excédent commercial chinois, certes, il n'a jamais été aussi fort qu'en 2024. En revanche, le volume des échanges dans un sens et dans l'autre s'est réduit avec les États-Unis. Le premier partenaire commercial de la Chine aujourd'hui, c'est l'Asie du Sud-Est. Et ça, c'est ce que j'appelle le dérisking.
Donald Trump est-il finalement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Chine?
Aujourd'hui, la très mauvaise nouvelle, c'est que on ne sait pas du tout ce que Trump veut faire. Ça, pour la Chine, comme c'est une direction qui planifie des années à l'avance, si le cours des choses change tout le temps, c'est difficile de planifier. Et il y a quand même un scénario qui dit qu'en s'alliant avec la Russie, l'objectif des États-Unis, c'est d'isoler la Chine. On ne sait pas si c'est le cas. Moi, je prétends qu'on n'est plus du tout dans le monde de 1971 et que dans 1971, c'était très facile de découper les camps selon le pointillé et qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus difficile. Mais ça peut être une mauvaise nouvelle pour la Chine, effectivement.
Voilà, Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. Merci de votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.